voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéret.
Et si, après des siècles de patriarcat, on entrait dans l'ère de la sororité, de la solidarité entre femmes? Bon, elle a toujours existé, mais en ces temps post-MeToo de libération de la parole, cette bienveillance prend peut-être encore plus d'importance. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Notre film à l'affiche cette semaine est un beau portrait, un double portrait de femmes dans la médina de Casablanca. L'une attend un enfant et est à la rue, l'autre est une pâtissière enfermée dans son veuvage. Elles vont apprendre à s'apprivoiser et dompter leur solitude. Adam, Adam, c'est le titre de ce beau premier film de Mariam Touzani en studio avec nous pour nous en commenter les premières minutes. Cette semaine, dans tous les cinémas du monde, on parle aussi d'un documentaire brésilien sélectionné aux Oscars et qui fait polémique dans son pays, d'un polar islandais, A White White Day, et de Cuban Network d'Olivier Assayas. Plein phare cette semaine sur un film délicat remarqué à Cannes dans la section Un certain regard, une œuvre signée Mariam Touzani. Bonjour.
Bonjour.
Adam, alors Adam, on prononce je pense à la marocaine, c'est le titre de votre premier long métrage, donc le prénom du premier homme pour un film sur des femmes. Samia, c'est une jeune fille de la campagne, débarque très enceinte à Casablanca, sans ressources. Sans abri, elle finit par trouver refuge chez Abla, une pâtissière de la Médina. Je n'en dis pas plus car vous avez accepté, Mariam Touzani, de vous prêter au jeu de la première bobine, le commentaire des 5 premières minutes de votre film. Un film qui commence par de la musique, hein, sur fond noir. Alors c'est quoi cette musique? C'est une musique traditionnelle?
Oui, c'est une musique de la Médina. C'est une musique qu'on entendrait partout au Maroc, oui.
Le générique défile, on voit que Nabil Ayouch, avec qui vous avez travaillé notamment sur Much Loved et sur Radia, d'ailleurs vous étiez à l'affiche comme actrice de ce film, produit Adam, il a participé à l'écriture, c'est aussi lui qui vous a poussé à réaliser ce film?
C'est lui qui m'a donné la croyance en moi-même dont j'avais besoin pour justement réaliser ce premier long métrage, parce que j'avais réalisé des courts métrages avant, des documentaires, mais là c'était mon premier long de fiction, donc j'avais besoin aussi de sentir que j'étais soutenue, et il y a eu ce regard de Nabil qui et ce soutien qui était là au bon moment.
Salam, alaykoum salam, donc le bel akhdem. غير دايزه شي يامات
عندك تجربه؟
50 وانا كوافور
شنو ديري؟
كنعرف نقطع نصبغ ندير لي ميش بروشينغ.
Scène suivante, enfin début du film, on entend un dialogue, on est toujours sur fond noir. Une femme dit bonjour, elle cherche du travail, gros plan sur elle, qui parle de son expérience, qui dit qu'elle a de l'expérience, hein, puisqu'on est dans un salon de coiffure. Alors l'actrice qui joue Samia, donc cette jeune fille, c'est Nisrine Eradi. Vous l'avez rencontrée comment? C'est une actrice professionnelle?
C'est une actrice professionnelle que j'ai rencontrée en faisant des castings de manière traditionnelle, même si au début j'avais commencé à caster des jeunes mères célibataires qui avaient vécu la même chose. Parce que je me disais que j'allais réussir à trouver cette vérité à travers un vécu. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que justement ce vécu-là risquait d'être trop lourd à porter et trop difficile pour ces femmes-là et qui fragiliserait réellement le film.
Qu'est-ce que vous cherchiez pour Samia? Il fallait qu'elle ait l'actrice, il fallait qu'elle ait quelle qualité?
Il fallait qu'elle soit sans concession quelque part, hein. Qu'elle ait une vraie croyance dans le personnage, qu'elle ait une force comme celle qu'a Samia, une force intérieure brute, Nisrine Eradi, et puis qu'elle ait une vraie sensibilité aussi profonde.
Comment ça s'est passé le casting? Vous lui avez fait jouer une scène en particulier, et si oui, laquelle?
Oui, elle est arrivée déjà quand elle a ouvert la porte et que je l'ai vue, il y a quelque chose qui s'est passé, parce que à travers son regard, Nisrine dit beaucoup de choses déjà, sans même devoir parler. Et justement, je parlais de cette force, je sentais qu'il y avait ça en elle à l'intérieur dès le début, en même temps une sorte de vulnérabilité, de fragilité, de douceur que je cherchais. chercher aussi chez Samia. Et puis je disais tout à l'heure sans concession, parce que pour interpréter un tel personnage au Maroc, c'est pas évident. C'est-à-dire quand on décide de montrer son sein pour allaiter son enfant, ça peut sembler anodin, mais au Maroc, ça peut être quand même un geste. C'est-à-dire où on a besoin de courage et de croyance dans son personnage pour faire ça. Et Nisrine avait ça. Elle est vraiment, c'est une fille qui est sans concession à partir du moment où elle croit en ce qu'elle fait. Et ça m'a profondément touchée. Et puis ensuite, on a fait des essais. On a fait un essai à un moment donné qui était très difficile. Un moment avec son enfant quand il naît. Et j'étais totalement époustouflée par son jeu, par la manière dont elle arrivait à aller chercher en elle ses émotions. C'est une comédienne, mais hors norme.
Alors, au début de votre film, Mariam Touzani, on l'entend plus qu'on ne la voit. Hein. Mm-hmm. Et ce personnage, on la voit. Donc, elle apparaît à l'image, puis on ne la voit pas en pied. Elle est cadrée sur le visage. Quelqu'un lui demande, tu peux travailler dans cet état ? Elle postule donc dans ce salon de coiffure. Elle est prise à l'essai. Elle sourit, puis elle cherche à pousser son avantage. Elle demande si elle peut dormir dans le salon. Et là, elle se fait évincer. Ce n'est pas un hôtel. Donc, on comprend comme ça, juste par petites touches, que c'est une jeune fille qui est à la rue. Elle vient d'où? Parce que est-ce que ça s'entend? Alors nous, on n'est pas arabophone, mais est-ce que ça s'entend rien que quand on à l'accent ou pas?
Non, pas forcément. Elle vient d'un village. Elle vient de l'extérieur de Casablanca, justement parce qu'elle a fui. Elle a fui chez elle parce qu'elle a essayé de cacher sa grossesse. Donc elle est partie il y a longtemps et elle a fait le tour des villes. Peut-être, on ne sait pas justement. J'ai pas voulu donner de background réellement parce qu'elle aurait pu être une fille qui arrivait de n'importe où. Et c'était ça l'idée aussi derrière. C'était ça le sentiment que j'avais envie de transmettre. Et puis j'avais aussi envie de rester sur son visage. C'était vraiment un choix d'être cadré sur elle parce que ce qui m'intéressait par l'extérieur, c'était ce qu'elle ressentait, elle, de cet extérieur. C'était les coups qu'elle prenait, justement, quand on lui fermait les portes. C'était ce rejet quand elle demandait, justement, quand elle poussait un petit peu, qu'elle demandait de dormir. Et c'est là où on se rend compte réellement que c'est pas une fille qui cherche un travail, qu'en réalité, c'est une fille qui cherche un toit, que c'est une fille qui est désemparée, qui n'a pas où aller. Et donc, oui, c'est vrai qu'on comprend par petites touches, mais je voulais qu'on comprenne ça de cette manière et qu'elle ressente ça. Réellement, plus que comprendre. J'avais envie qu'on soit avec elle dans ses yeux, justement, et qu'on voit les émotions se transformer à travers son regard.
Puis apparaît le titre du film, donc Adam, Adam. Ce choix, pourquoi? Alors on le saura à la fin, hein, mais au début, ça peut paraître intriguant. Et pourquoi Adam, c'est le prénom, c'est le nom du premier homme sur Terre. C'était ça aussi, c'est l'idée de recommencement.
C'est l'idée de recommencement, c'est l'idée d'un nouvel homme, justement. C'est l'idée d'un homme qui doit renaître, se reposer des bonnes questions par rapport à sa place, par rapport à la place de la femme. Et c'est un homme qui doit être aussi conscient que s'il est l'homme qu'il est, s'il existe, c'est parce qu'il a été porté par une femme, c'est parce qu'il a été enfanté par une femme. Et je pense que parfois on oublie ça. Et donc pour moi, c'était très important de nous ramener à ça, de nous ramener à la genèse. Et puis aussi parce qu'en marocain, Adam, Bnadem, veut dire fils d'Adam. Et fils d'Adam, en langage courant, quand on dit Bnadem, ça veut dire être humain, ça veut dire personne. Donc on dit ce Bnadem, ça veut dire cette personne, cet être humain. Et cet enfant qui naît dans ce film est qualifié dans notre société d'un Wad al-Haram, d'un fils du péché. Alors que c'est en réalité un fils d'Adam. Donc j'avais justement envie de dire, ben non, cet enfant qui arrive dans le monde est un fils d'Adam, est un être humain avant tout. Et il a même droit à la vie, à la dignité que n'importe quel autre enfant, peu importe d'où il vienne. Et ça, c'était très important pour moi.
Alors on va suivre Samia de dos, on est dans le souk de Casablanca, le fond est un peu flou. Vous choisissez souvent, Mariam Touzani, de jouer justement des effets de flou et de net. dans le cadre.
Oui, parce que il y a des moments, j'ai envie d'être à l'extérieur, mais de me couper de cet extérieur, mais d'être réellement avec mes personnages.
On est dans sa tête, à elle.
Absolument. Tout en ressentant la Médina, en écoutant ses sons et puis en voyant ses couleurs, c'est-à-dire, je place les comédiennes dans leur contexte, mais en même temps, il y a des moments où j'ai envie de me couper de ce contexte-là pour justement me pencher vers l'intérieur de ces femmes-là.
C'est comme si le choc s'est pris la porte dans la figure. Hein, on lui a fermé la porte du salon coiffuronné et que du coup son désespoir l'empêchait de. Elle est sous le choc, quoi. Elle ne perçoit plus le monde autour d'elle. Elle marche difficilement et puis on va découvrir son état. Donc elle est assise de profil, très enceinte.
Absolument, très enceinte, comme vous dites, et avec tout ce que ça comprend quand on est enceinte de 8 mois et qu'on est fatigué et qu'on a mal parfois et que. Voilà.
Salam. Alaykoum salam. خاصك شي خدامه ما محتاجاش ليها اختي كاينه غير انا وراجلي كنعرف نخمم لك مزيان لا اختي صافي تتعامل المهم ما عنديش شنو غادي ديري لي فهمتي انا وراجلي.
Elle frappe à plusieurs portes, elle se propose, elle propose tout ce qu'elle est capable de faire, femme de ménage, faire la cuisine, elle est très enceinte et tout le monde lui ferme la porte. Jusqu'à ce qu'elle entende une enfant qui l'a, elle.
Elle vient. Anna. Elle est là. Miss Meeting.
Samia.
Elle dit une chelique le bab.
C'est la petite fille d'Abla, donc Lubna Azabal, qui ouvre tout d'abord la porte, puis la ferme vite et va préparer le goûter de sa petite fille. Leur rencontre à toutes les deux, là on est au début du film, elle n'est pas évidente, elle commence d'ailleurs par une porte fermée.
Elle commence par une porte fermée, elle n'est pas évidente comme vous dites, parce que Abla est une femme qui s'est fermée au monde, parce que ça a été le seul moyen pour elle de survivre. Quand son mari est mort, c'est une femme qui n'a pas réussi à faire face à sa douleur, c'est une femme qui n'a pas réussi à faire son deuil et qui ferme son cœur et qui ferme se ferme de ses émotions. Donc les débuts vont être difficiles, mais après il y a quelque chose qui fait appel à l'humanité, à l'être humain en elle aussi et qui va faire qu'elle puisse s'ouvrir vers cette autre femme.
Elle a peur du qu'en dira-t-on au début, Abla, pour pouvoir justement accepter cette jeune fille manifestement donc très enceinte et sans abri.
Bien sûr qu'elle a peur du qu'en dira-t-on, et elle le dit, elle a peur comme beaucoup d'autres personnes ont peur, comme beaucoup d'autres personnes auraient pu, c'est-à-dire je pense que beaucoup d'autres personnes auraient pu la laisser rentrer, mais il y a cette peur, parce qu'il y a cette pression sociale, parce que au-delà de la dureté des lois, il y a la dureté de la société, qui est celle qui régit réellement la manière d'agir. Et donc, faire rentrer une femme comme ça chez soi, c'est prendre un risque réel à tous les niveaux. Mais surtout, être montré du doigt par les autres, parce que ça voudrait dire quelque part qu'on cautionne un tel comportement. Mais heureusement, Abla est une femme qui, quand même, elle aussi, sans concession, qui a du caractère, qui est indépendante, qui a décidé justement de se battre toute seule par la force des choses, par la force de la vie, et donc qui trouve en elle le courage de faire entrer cette autre femme malgré elle au début. Mais voilà, qui n'arrive pas à étouffer ce que cette femme vient réveiller en elle.
Elle est née comment, l'idée du film, de la rencontre entre ces deux femmes fortes? Parce qu'on pense beaucoup à un film, un grand classique du cinéma hollywoodien, Imitation of Life, de Douglas Sirk. Mais j'imagine qu'il y avait probablement des influences plus marocaines et plus précises pour vous.
Des influences très personnelles en réalité. Ce film est né, c'est-à-dire le personnage de Abla est inspiré d'une vraie rencontre avec une jeune mère célibataire que mes parents avaient accueillie à Tanger. Moi, je rentrais de l'université, j'avais 22-23 ans et je passais quelques temps chez mes parents quand une jeune femme est venue taper à notre porte, pareil, enceinte de 8 mois.
Comme Samia,
désemparée, apeurée. Et puis mes parents lui ont ouvert la porte et elle est restée avec nous jusqu'au moment où elle a accouché. Et moi, j'ai vécu toute cette fin de grossesse avec elle. J'ai vu une jeune femme se transformer en mère. J'ai vu une jeune femme essayer d'étouffer ses instincts maternels parce qu'elle avait peur. Elle avait peur d'aimer cet enfant, sachant que derrière, elle devait l'abandonner pour continuer son chemin. Et ça m'avait bouleversée à l'époque. Et je l'ai gardée en moi. pendant beaucoup d'années. Et 15 ans plus tard, en devenant mère moi-même, quand j'ai commencé à sentir mon enfant bouger en moi, quand je me suis retrouvée à l'aimer avant même qu'il arrive au monde, et que je savais que j'avais cette chance de pouvoir avoir cet enfant-là, j'étais consciente de ça aussi parce que j'avais vu le contraire. J'avais vu le déchirement d'une femme. J'avais vécu ce déchirement-là. Donc là, je me suis retrouvée à penser à elle sans cesse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Donc le personnage de Samia, je savais d'où il venait. Par contre, le personnage de Abla a surgi dans mon écriture sans que je sache pourquoi. Mais c'est plus tard que j'ai compris, parce que j'avais perdu mon père entre-temps. J'avais vécu le deuil, j'avais vécu aussi beaucoup de choses par rapport à ça, la dureté, ce qu'une femme peut vivre quand on lui vole ces instants-là, des instants qui ne reviennent plus avec l'être aimé. Et donc, j'ai commencé à écrire aussi Abla. Et cette histoire, justement, de ces deux femmes, de cette rencontre, a commencé à prendre forme.
La mort n'appartient pas aux femmes, dit à un moment Abla, parce qu'elle explique qu'elle n'a pas pu faire le deuil de son mari, parce que dès qu'il est mort, presque il était mis en terre. Mm-hmm. Les femmes ne sont pas autorisées à venir à l'enterrement, c'est ça ?
Non, les femmes ne vont pas à l'enterrement. Chez moi, au Maroc, les femmes ne vont pas à l'enterrement.
Mais ça, c'est lié à la religion ?
Non, justement, c'est même pas lié à la religion, c'est quelque chose qui est lié à la tradition. Et c'est ces traditions-là qu'on ne remet pas en question. Et vous pouvez imaginer à quel point c'est violent pour une femme d'être empêchée d'aller à l'enterrement d'un être cher, d'aller à l'enterrement de son enfant, de son père, de sa mère, de son frère, peu importe, mais de quelqu'un qu'elle aime, d'être obligée de rester à la maison et d'attendre le troisième jour, parce qu'elle a le droit d'aller au cimetière que le troisième jour. Ça, c'est d'une violence inouïe. Moi, j'ai vu ça autour de moi. J'ai vécu ça aussi. Je sais ce que c'est. Et c'est-à-dire, personne n'a le droit d'enlever ça à une femme, à quiconque. C'est que chez nous, en général, quand une personne décède, on l'enterre le plus vite possible. Sauf si on attend que quelqu'un arrive de l'étranger, qu'il n'est pas là. Là, on attend. Mais sinon, ça va très vite. C'est-à-dire, ça peut être une question d'heures. Donc, on n'a même pas le temps de se rendre compte, de digérer, de dire au revoir, de vivre réellement ce qu'on est en train de vivre. Et comme elle dit, son mari a été enterré encore chaud, littéralement, tellement ça allait vite. Donc, c'est une femme qui n'a pas pu dire au revoir comme elle le voulait. Encore, si elle avait essayé de le garder plus de temps à la maison, elle n'aurait pas pu imposer ça. Donc c'est très dur à vivre. Donc d'un côté, on a une femme à qui on vole la vie de son enfant, de cet enfant qu'elle porte. Et de l'autre côté, on a une femme à qui on a volé la mort de son mari, l'empêchant derrière de pouvoir continuer à vivre.
On vole la vie de cet enfant parce qu'un enfant qui naît hors mariage, il est forcément, pour le coup, ostracisé et sa mère aussi.
Mm-hmm. Oui, oui.
C'est ça l'idée.
Ah, mais oui, beaucoup plus qu'ostratisé. Il est vraiment mis au banc de la société. Il est jugé. C'est-à-dire, quand Samia dit, s'il reste avec moi, il est condamné, c'est qu'il le sera vraiment. C'est un moins que rien, un enfant qui naît sans père reconnu au Maroc. Donc, ça, c'est un vrai drame. Ces enfants-là, c'est-à-dire, portent cette croix toute leur vie. Même leur vie d'adulte. Donc c'est très très dur d'être cet enfant au Maroc et c'est très dur d'être cette femme. Donc justement, Samia se trouve face à une impasse. Si elle le garde, il n'y a pas d'espoir. Et puis si elle le donne, comme elle dit, elle ne le saura jamais. Elle ne saura jamais ce qui s'est passé derrière. Mais en même temps, peut-être qu'il aura une chance d'être adopté par des parents, de grandir dans une famille, d'avoir une éducation. Au moins, elle croit en ce possible. Qu'elle ne pourra pas
et
lui donner.
Et peut-être qu'elle aussi pourra recommencer une nouvelle vie.
Absolument, mais c'est le cas de beaucoup de jeunes femmes, justement, qui donnent leur enfant et qui vont revenir chez elles, se remarier sans jamais dire ce qu'elles ont vécu avant. C'est-à-dire, c'est le secret qu'elles vont garder toute leur vie. D'ailleurs, avec cette femme que j'ai rencontrée, c'était ça. Et elle a été donnée son enfant parce qu'elle voulait aussi pouvoir revenir chez elle et se marier, avoir une possibilité de forger une famille là où, en gardant cet enfant, c'était terminé pour
les
elle.
Les deux étaient condamnés.
Les deux étaient condamnés.
Et pourquoi vous avez décidé de ne rien dire, justement, parce qu'on ne sait pas qui est le père mm-hmm. de cet enfant, si c'est le fruit d'un viol, mm-hmm. si c'est le fruit d'une agression, si au contraire elle avait un petit mm-hmm. ami. Pourquoi vous avez décidé de laisser le mystère là-dessus ?
Oui, j'ai voulu laisser le mystère parce que pour moi, c'était important qu'il n'y ait pas de jugement moral. C'était important que c'était C'est-à-dire, ce que je voulais, c'est qu'on s'intéresse à ce que cette femme ressentait au présent, à sa relation avec cet enfant, à comment cette relation évolue avec cet enfant, donc qui est au début dans son ventre, mais qui après va se matérialiser. Ce qui m'importait, c'était ce qu'elle ressentait là, maintenant, et puis l'avenir, ce que l'avenir leur réservait à elle et à son enfant. J'avais pas envie qu'on porte de jugement sur elle. Ce qui m'importait, c'était le présent, ce qu'elle ressentait, sa relation avec son enfant et l'avenir, comme je vous disais. Et puis, j'avais pas envie non plus qu'on porte de jugement sur l'homme qu'elle avait mis enceinte. C'était pas ça ce qui était important. Ce qui était important, c'était elle et cet enfant.
Et d'ailleurs, donc, votre film, Mariam Touzani, donc, Adam, il se déroule sur quelques jours, peut-être quelques semaines, mais enfin, c'est un laps de temps. C'est comme un no man's, il y a les no man's land, mais là, c'est un no man's time, en fait. C'est une fin de grossesse et les deux, Samia et Abla, vont s'apprivoiser. Samia, en fait, elle arrive à grappiller du temps progressivement. C'est un peu chez Sheherazade. Elle gagne un peu comme ça, soirée à pas soirée.
Absolument. Oui, mais c'est ça. Et elle arrive à travers cette Arziza, donc cette pâtisserie qu'elle
alors,
sait faire.
Alors, c'est quoi ça? Parce que Abla est pâtissière. Oui. Mais Samia, elle crée une pâtisserie très particulière. L'arziza, c'est quoi?
L'arziza, c'est comme des spaghettis. C'est comme une crêpe faite à la manière de spaghettis. Donc c'est traditionnel. C'est une pâtisserie ancestrale que malheureusement on est en train de perdre au Maroc. Parce que voilà, c'est très laborieux.
Ça prend beaucoup de temps.
Ça prend du temps, exactement. Et donc, c'est quelque chose qui a toujours existé dans notre culture, qui était passé de génération en génération, mais qu'on est en train de perdre justement parce qu'on a plus tellement le temps. Ça a été remplacé par une arziza faite à la machine, donc ça va beaucoup plus vite, mais qui n'a rien à voir avec l'arziza traditionnelle. Et même là, on n'en trouve plus. J'avais fait le tour de la Médina de Casablanca avant de tourner le film, et j'ai pas trouvé une seule femme qui faisait de l'arziza à la main, qui faisait de l'arziza tout court, même pas à la main, dans la Médina de Casablanca. Alors que moi, j'ai grandi en mangeant de l'arziza. Moi, je suis de Tanger, j'ai grandi avec ça et j'ai toujours adoré ça. Moi, j'avais envie quelque part aussi de parler de toutes ces choses qui font partie de notre identité, qui font partie de ce patrimoine culturel, des choses qui sont très belles et que j'ai envie, c'est-à-dire j'avais envie de pouvoir quelque part les sublimer, qu'on puisse prendre conscience et essayer de les préserver. Justement, à travers ces traditions qu'on explore, j'ai envie aussi de pouvoir remettre en question d'autres traditions, justement. Par exemple, toutes les traditions liées à la mort, qui font partie, encore une fois, pas de la religion, mais de la tradition.
Et vous filmez la préparation de l'arziza, c'est des scènes d'une grande sensualité. Il y a une autre scène d'une grande sensualité, c'est quand Samia et Abla vont danser sur la musique de Warda. Warda, c'est une grande chanteuse.
Warda, c'est une grande chanteuse algérienne, mais qui est une icône dans le monde arabe entier. Et moi, je connaissais Warda de loin. Tout le monde connaît Warda, mais j'avais jamais, c'est-à-dire dans le monde arabe, tout le monde connaît Warda. C'est vraiment une idole. Mais je n'écoutais pas régulièrement sa musique, et je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, il y a dû se passer quelque chose, et cette chanson-là, sa musique, s'est inscrite en moi. Et un jour, je me suis réveillée quand j'écrivais le scénario avec cette musique dans la tête. Et donc, je suis allée chercher. J'ai commencé à réécouter Warda, et notamment cette chanson. Et il y avait quelque chose de tellement, tellement puissant, tellement beau, tellement douloureux aussi dans cette chanson, qui pour moi aurait pu être écrite par Abla elle-même, parce qu'elle parle de l'être aimé, elle parle de l'absence, elle parle de comment transformer cette absence quelque part, de ce qu'elle représente. Et je trouvais que ça ressemblait tellement à ce que Abla ressentait. C'était vraiment sa vérité. Donc du coup, je me suis retrouvée, c'est-à-dire à l'écouter en boucle pendant toute l'écriture du scénario, et avait vraiment sa place dans le film. Elle était essentielle. Et puis cette musique aussi qui va la remettre face à elle-même, face à la douleur.
Parce que Samia, elle fait danser Abla.
Bah oui, Samia l'oblige. Samia la violente quelque part. Je pense que parfois on a besoin d'être violenté, d'être secoué pour se réveiller. Et c'est ce qui se passe avec Abla, c'est qu'elle n'a pas réussi, mais là, elle a eu besoin de quelqu'un qui a pu voir en elle et regarder vraiment quelles étaient...
Elle a débloqué, en fait.
Absolument, oui.
Alors votre film Mariam Touzani, il vient de sortir en salle au Maroc. Quel est l'accueil? Parce que est-ce que c'est un film qui transgresse quelque chose, qui du coup fait beaucoup réagir au Maroc?
Oui, il fait beaucoup réagir au Maroc. C'est un film qui parle de choses dont on ne parle pas d'habitude, qu'on évite justement. Ces mères célibataires, eh ben, elles sont quelque part transparentes. On n'a pas envie d'en parler, on n'a pas envie de mettre des visages sur elles. On peut lire dans les journaux, les statistiques, les chiffres, mais de mettre un visage sur ces femmes, de leur donner une place où, c'est-à-dire où on pénètre à l'intérieur d'elles, où on est avec elles, où on vit leur douleur, qu'on puisse vraiment de l'intérieur vivre les luttes qu'elle vivait et vivre l'impact que cette société avait sur elle. Moi, j'avais vraiment envie d'être à travers l'image, tellement proche d'elle, à travers le manque de musique aussi, parce que c'est vrai que c'est un film où il n'y a pas beaucoup de musique, c'est un film où il n'y a pas beaucoup de paroles, mais c'est un film à travers
en
lequel...
En revanche, c'est un film très sensuel.
Très, oui, oui.
À commencer par les couleurs des étoffes.
Oui, les couleurs. En fait, j'avais envie que tout ça puisse nous aider à pénétrer l'âme de ces deux femmes. Il y a eu un vrai travail sur la couleur, sur la lumière, sur les cadres. J'ai été très inspirée par des peintres comme Vermeer, de la Tour, Caravage.
Les maîtres du clair-obscur.
Absolument, absolument. Et je crois que c'est ça aussi, c'est ce clair-obscur aussi qui raconte ces femmes-là. C'est vraiment pouvoir les raconter aussi par ça, par touche de couleur aussi, en choisissant les textures qui allaient être présentes à l'image avec Virginie Surdège, la chef-op du film, et puis avec Pilar Peredo, qui était la chef décoratrice. On a pu vraiment, à trois, travailler sur l'image et comment cette image allait nous aider à véhiculer l'émotion, à apprendre à connaître ces femmes, surtout parce qu'on est dans un film qui n'est pas très bavard. C'est-à-dire, je n'avais pas envie de raconter les choses par les mots ou par l'action d'ailleurs. J'avais envie de laisser vivre les scènes, j'avais envie que les personnages puissent imposer leur propre rythme dans certaines scènes, et j'avais envie surtout qu'on puisse se poser et observer, regarder réellement. Regarder de l'extérieur, mais regarder aussi de l'intérieur. Et puis cette patte aussi, qui est filmée de manière sensuelle, charnelle, qui pour moi est un vrai vecteur de transmission, qui nous raconte la rencontre de ces deux femmes, mais qui nous raconte aussi la transformation intérieure et la redécouverte d'elle-même. Donc beaucoup passe à travers la patte, et c'est pour ça qu'elle est filmée de manière sensuelle, de manière charnelle, de manière organique, et surtout ressentie. Ça pour moi, c'était essentiel.
Et d'ailleurs, le film, hein, il fait aussi le tour du monde, le tour des festivals, je crois 17 prix dans des festivals du monde entier, dont le prix de la meilleure actrice à Durban, en Afrique du Sud, pour Nesrine Eradi.
Et vous savez, ce qui a été très intéressant dans le fait d'avoir ces prix, c'est que les échos revenaient au Maroc, donc il y a eu le moment Cannes, bien sûr, qui a fait parler du film. Plus le film faisait le tour du monde et plus il glanait des prix, plus on s'intéressait au film, à tout ce qu'il portait comme message, comme tout ce qu'il traitait comme problématique et le pourquoi. Et donc, du coup, le débat a commencé à s'ouvrir. Et ça, c'était très intéressant. Après, il y a eu, évidemment, l'affaire Aja Raissouni en septembre. Donc, cette journaliste qui a été emprisonnée parce qu'elle a eu des relations sexuelles hors mariage et qu'elle s'est fait avorter. Et finalement, c'était très, très, très beau à vivre. C'est-à-dire, cette expérience-là avec le film aussi, parce que c'était comme si le film rencontrait une époque où les femmes, ont envie de pouvoir parler de certaines choses, où les femmes ont marre de se laisser faire, où elles ont envie de porter leur combat publiquement.
Merci Mariam Touzani. Je rappelle le titre de votre très beau premier long-métrage qui sort en salle mercredi prochain en France, c'est Adam. Adam. Tout de suite, une pause musicale dans tous les cinémas du monde, une bonne dose de girl power et de vitamines avec ce titre de Lizzo, Juice.
Gotta been looking like bread goo. Ooh, lit up like a crystal ball. That's cool, baby. So is you. That's how I roll. If I'm shining, everybody wanna shine.
Yeah, I'm gold.
I was born like this. Don't even gotta.
gotta try.
Now you know.
I like Chardonnay, get better over time.
Now you know.
They just say I'm not the baddest bitch you like.
It ain't my fault.
À l'écoute de tous les cinémas du monde sur RFI. Après Adam de Mariam Touzani, on passe avec vous, Elisabeth, aux autres films de la semaine. Un thriller à Cuba au temps de la guerre froide, c'est le nouveau film d'Olivia Sayas, Cuban Network, avec Penélope Cruz et Edgar Ramirez.
Oui, et c'est inspiré d'une histoire vraie, hein, celle des Cuban Five, donc ces cinq espions cubains envoyés à Miami au début des années 90 pour infiltrer les réseaux anticastristes. Alors Olivia Sayas retrouve bien sûr une veine qu'il avait inaugurée en 2010 avec sa mini-série sur le terroriste Carlos. Donc l'histoire de ces Cuban Five, l'histoire de Cuban Network, commence en fait au moment où celle de Carlos se termine, c'est-à-dire à la fin des années 80, début des années 90.
Cette histoire-là m'a intéressé parce que elle, d'abord parce qu'en effet, elle a à voir avec la guerre froide, que j'ai l'impression que la guerre froide est d'une certaine façon le modèle des guerres contemporaines, c'est-à-dire des conflits larvés où on s'affronte par alliés interposés, ou la manipulation de l'opinion publique. L'espionnage joue un rôle clé. Donc moi, ça m'intéressait à partir du moment où il y avait moyen de réduire cette histoire-là à celle d'une famille, à trouver des personnages auxquels humainement je pouvais me rattacher et qui, d'une certaine façon, condensaient, concentraient cette histoire d'une façon qui pouvait être intelligible pour un public qui connaît très mal cette histoire, qui est néanmoins identitaire, essentielle pour la compréhension de la guerre souterraine qui se mène entre les Cubains de l'exil et les castristes, donc entre Miami et la Havane.
Il y a une scène extraordinaire dans votre film, c'est celle où Penélope Cruz, donc qui joue la femme d'Edgar Ramirez, demande des comptes à son mari. Et c'est là qu'on se dit que bien au-delà d'un film d'espionnage, d'un film d'action, c'est aussi un film sur le couple et sur l'autre en tant qu'agent double.
Bien sûr, pour moi, l'histoire, c'est celle du personnage de Olga, qu'interprète Penélope Cruz. C'est-à-dire que c'est à travers ses yeux à elle qu'on suit ce récit. Dans un premier temps, il y a une incompréhension ou il y a une ignorance des véritables mécanismes de ce qui est en train de se passer.
En fait, elle se sent abandonnée. Elle est abandonnée.
Elle est abandonnée par un mari qui l'a déçue et qui s'est conduit comme un traître à sa patrie. Puis après, elle comprend que tout ça est plus compliqué. Il y a quelque chose là d'émouvant. Et le pivot de ce récit est évidemment le personnage qu'interprète Penélope Cruz.
Olivier Assayas, on est très étonné dans votre film par la performance de Penélope Cruz, de voir à quel point le fait de parler sa propre langue la transforme en tant qu'actrice.
D'abord, ça faisait partie d'une espèce de contrat qu'on a passé entre nous la première fois où on s'est vus. À la fin de notre conversation, elle me dit « Mais attendez, il y a une question que je n'ai pas osé vous poser, il faut quand même que j'ose vous la poser. Évidemment, moi je préférerais, si c'était possible, de le faire en espagnol. » Alors je lui dis « Mais Penélope, il n'y a même pas débat, ce film il est fait pour être fait en espagnol. » « Ah d'accord, ok, bon, je suis bien soulagé parce que je viens de faire un film qui était le film sur Pablo Escobar avec son mari, avec Javier Bardem, qui était en anglais, et je me sentais très mal de jouer un personnage hispanique en anglais, et je ne voulais pas refaire ça, et au contraire, ça, alors là, du coup, moi, ça me passionne vraiment, parce que l'accent cubain, je ne l'ai jamais fait, c'était vraiment une partie importante, mais elle a vraiment beaucoup travaillé avec des coachs, leurs accents, et il y avait sur le plateau un coach par acteur, quand c'était des acteurs non cubains.
Le film, est-ce que vous l'avez déjà montré à Cuba ?
Le rapport de ce film avec Cuba est complexe. Hein. C'est-à-dire dans un premier temps...
Parce que
dans un premier temps, quand on est allé à Cuba pour leur demander l'autorisation de tournage, on a été reçu très aimablement, etc. Mais enfin, la réponse a été non. Un non très, très net, clair et net. Quand le film a été terminé, on l'a montré au Festival de New York, qui était évidemment la projection la plus prestigieuse, et le film a été reçu très chaleureusement. Donc, et la première personne qui s'est levée, c'est quelqu'un qui dit « Je me présente, je suis l'avocat des Cuban Five, et je tiens à vous dire que votre travail est parfaitement exact, historiquement juste. » J'ai bien compris à ce moment-là que ça valait pour validation par les Cubains du film. Et donc, à partir de ce moment-là, ils nous ont demandé de venir présenter le film au Festival de la Havane. Et ça a été de trois projections, de chacune devant 1400 personnes, avec des gens dehors qui attendaient, et où tous les protagonistes sont venus et nous ont fait part, nous ont transmis leur approbation, enfin, quant à la façon dont on avait traité cette histoire.
C'était donc Olivier Assayas, hein, que Elisabeth, vous avez rencontré pour parler de son nouveau film Cuban Network. Cette semaine est également sorti le deuxième long métrage du jeune réalisateur islandais Linur Palmason, que nous avions découvert il y a 2 ans avec Winter Brothers. Il est de retour sur les écrans français avec A White, White Day, un drame contemplatif aux allures de thriller. L'action se déroule dans une petite ville d'Islande. On suit un policier taciturne, endeuillé par le décès accidentel de sa femme. Sa vie, déjà bouleversée, bascule une nouvelle fois lorsqu'il comprend que sa femme entretenait une relation extra-conjugale. Alors le film, c'est Grégoire Sauvage qui l'a vu, il l'a trouvé très très beau visuellement. Il salue aussi la performance de l'acteur Ingmar Evert Sigurðsson, qui a reçu le prix du meilleur acteur au Festival d'Angers. Et Grégoire Sauvage a pu rencontrer le réalisateur Linur Palmason.
On comprend qu'il était un mari dévoué et qu'il a du mal à tourner la page. Il est comme une blessure encore béante, incapable de guérir. Et quand il commence à douter de la fidélité de sa femme, il doute aussi de tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Et cette situation va le pousser à commettre des actes qui dépassent les bornes.
En France, les pays nordiques sont célèbres pour leurs romans policiers. Ici, on est plus dans le drame que dans un vrai thriller.
Oui, je suis plutôt attaché aux personnages et à leurs émotions. Je n'ai jamais vraiment été intéressé par les intrigues. Dans ce film, je travaille beaucoup sur la relation entre le personnage principal et sa petite fille. C'est un amour inconditionnel, différent de celui qu'il porte à sa femme disparue. Je voulais parler de ces deux types d'amour et les confronter dans ce film, et aussi explorer cette limite très fine qui existe entre l'amour et la haine.
Le personnage principal est interprété par Ingmar Evert Sigurðsson, c'est un acteur connu en Islande. Il a une présence physique incroyable dans votre film, Lino Palmason. Pourquoi avez-vous pensé à lui pour ce rôle ?
Je l'ai rencontré quand je tournais mon court-métrage de fin d'études et on pourrait dire que je suis tombé amoureux de lui. Comme vous l'avez dit, j'aime les acteurs physiques, mais lui est aussi très bon techniquement avec les dialogues. Il peut tourner de longues scènes tout en restant très présent émotionnellement. Cette combinaison me donne la liberté d'écrire les scènes que j'ai vraiment envie d'écrire. Cela m'offre plein de possibilités.
Alors c'est peut-être un cliché sur les pays nordiques, mais on retrouve chez vous ces personnages sur la réserve, hein, qui ont du mal à exprimer leurs sentiments.
Vous savez, mon père, par exemple, c'était quelqu'un qui portait une armure, le genre de personne qui ne demande jamais aucune aide. Je pense que j'ai grandi avec des gens qui avaient ce type de caractère. Dans le film, j'explore cette tension latente, ces sentiments enfouis mais qui bouillonnent à l'intérieur.
Lino Palmason, vous auriez pu tourner au White White Day ailleurs qu'en Islande ?
Non, le film a vraiment été écrit pour être tourné là où j'ai grandi. Certaines scènes ont été pensées pour des lieux bien précis. Par exemple, les routes que l'on voit dans le film sont les plus élevées en altitude de tout le pays. Je travaille toujours très en amont sur les lieux de tournage, car c'est à partir des lieux que la narration peut s'épanouir.
Est-ce que le paysage a une portée symbolique ? Je pense au brouillard très présent dans le film, ou encore à cette longue séquence d'une pierre qui dévale le flanc d'une montagne.
Je ne travaille pas avec les symboles, mais je fais très attention aux détails. Je suis fasciné par l'idée de créer un monde autour des personnages pour mieux explorer leur intériorité. Pour moi, le film fonctionne quand j'accorde la même importance à tous les éléments. Quand le son est aussi important que l'aspect visuel, quand les paysages sont aussi importants que les dialogues. J'essaye de trouver cet équilibre dans le film.
Le rythme de votre film, Lino Palmason, peut être parfois un peu déroutant. Vous aimez prendre votre temps et puis soudain, il y a ces moments d'accélération intense. Quel genre de rythme vous cherchiez ?
Je voulais que le rythme de A White White Day soit lent pour permettre de créer l'espace nécessaire pour les personnages. Mais petit à petit, un déséquilibre se crée et le film devient de plus en plus dramatique ou agressif, on pourrait dire. Pour moi, un film, c'est une affaire de rythme, c'est comme une partition musicale. C'est ma manière de faire du cinéma.
Lino Palmason au micro de Grégoire Sauvage. Après l'Islande, on repart, Elisabeth, à Paris. Première étape de notre mini-tour du monde de la planète cinéma. Paris, où l'Académie des Césars vient de dévoiler ses nominations et le grand gagnant est...
J'accuse, de Roman Polanski. Après le succès public, hein, voici le temps des récompenses venues pour ce thriller historique sur l'affaire Dreyfus. Hein, on en a beaucoup parlé, Sophie, à cette antenne. Donc, J'accuse, hein, de Polanski, en lice pour 12 catégories. Rien de moins, hein, notamment le César du meilleur réalisateur et le César du meilleur film.
Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison.
J'accuse donc de Polanski en tête des nominations au César, une annonce qui a aussitôt relancé la polémique.
Oui, et enflammé entre autres hein, les organisations féministes, hein, parce que 12 nominations, en fait 12 accessoirement, hein, c'est le nombre de femmes qui ont accusé Polanski de viol, donc... Honte au César, a tweeté l'association Oser le Féminisme en appelant à manifester devant la salle Pleyel le 28 février, donc jour de la 45e cérémonie des Césars.
On dirait que cette année, l'Académie des Césars, eh bien, elle n'a jamais été aussi critiquée.
L'Académie et puis surtout son président Alain Terzian. Alors en 2017, hein, déjà, il avait été vivement attaqué lorsqu'il avait proposé à Polanski de présider la cérémonie. Il avait dû renoncer, entre autres, à cause de la bronca féministe. Alors aujourd'hui, l'Académie est très accusée pour son fonctionnement d'un autre âge. Aucune femme au bureau restreint, seulement 8 dans l'instance élargie, hein, ce qui pourrait expliquer accessoirement pourquoi il y a si peu de films de femmes qui sont retenues, qui ont des nominations au César. L'âge canonique des administrateurs fait également jaser.
Et puis le scandale, il y a 3 semaines, lors du traditionnel dîner des espoirs du cinéma français.
Oui, alors ça, c'est un dîner pré-César où une 30aine de jeunes acteurs et actrices se choisissent, chacun un parrain ou une marraine. Sauf que cette année, 2 marraines, Claire Denis et Virginie Despentes, ont été carrément écartées par l'Académie. Alors malgré des excuses un peu alambiquées d'Alain Terzian, le milieu s'est enflammé via les réseaux sociaux en dénonçant entre autres les pratiques opaques de l'ancien monde, les abus de pouvoir. Enfin, donc une affaire à suivre, Sophie.
Cuéntame, Salvador.
Insomnio.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
Vivir, supongo.
Douleur et gloire de Pedro Almodóvar, triomphe au Goya, les Césars espagnols.
Oui, c'était dimanche dernier, il a raflé 7 statuettes, donc meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario et puis bien sûr, hein, meilleur acteur, on s'y attendait pour Antonio Banderas.
Enfin, on achève notre voyage au Brésil. Bonjour Martin Bernard.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Sao Paulo et au Brésil actuellement. Un documentaire crée une belle polémique. Il s'agit de La démocratie en danger, sélectionné aux Oscars dans la catégorie documentaire. Un film politique signé Petra Costa. Cette réalisatrice de 36 ans a été ovationnée au festival de Sundance, mais visiblement, elle n'est pas prophète en son pays, le Brésil, hein, sous présidence Jair Bolsonaro.
Eh bien, Petra Costa, en quelque sorte, nous livre une vision à la fois très engagée et très personnelle de cette période très dense. C'est une version très subjective de l'histoire récente du Brésil, avec l'élection de Lula, le triomphe de la gauche, et puis les attaques menées contre Dilma Rousseff, la dauphine de Lula. Dilma Rousseff qui a fini par être destituée au terme de ce qui est présenté comme un coup d'État. Et puis on assiste à la condamnation de Lula lui-même. Petra Costa montre d'ailleurs ses derniers instants de liberté avant qu'il ne se rende aux autorités. Elle montre en filigrane que depuis la vague de manifestations de 2013, il y a un courant anti-Lula qui s'est établi et qui a débouché sur l'élection du président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, en octobre 2018.
Mais tous ces faits, Martin, sont bien connus. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce documentaire ?
Alors, l'originalité, c'est que Petra Costa raconte cette histoire à la première personne. Elle raconte, par exemple, l'histoire de ses parents qui ont milité contre la dictature militaire au Brésil. Ses parents apparaissent à l'écran, tout comme Petra Costa elle-même, quand elle filme les bâtiments officiels de Brasilia, par exemple. Mais le plus étonnant, c'est quand elle raconte que son grand-père fut l'un des fondateurs d'une grande entreprise de BTP qui a travaillé à la création de Brasilia, une entreprise qui s'appelle Andrade Gutierrez et qui fut aussi impliquée dans un grand scandale de corruption durant la présidence de Lula. Donc le documentaire est ponctué de ces petites touches personnelles et biographiques, mais tout cela reste quand même un peu manichéen. La gauche vaillante abattue par la vilaine droite, c'est un peu le fil conducteur de ce documentaire de Petra Costa.
Dans un pays très polarisé, le Brésil, on imagine que la sélection de ce film aux Oscars n'est pas passée inaperçue.
Oui, alors il y a eu des réactions très contrastées, vous l'imaginez. Le succès international de ce film a mis un peu de baume au cœur à une gauche qui a reçu un gros coup de massue sur la tête tout de même avec l'élection de Jair Bolsonaro. Mais de l'autre côté de l'échiquier politique, ce documentaire a été reçu avec beaucoup d'ironie. Il y a un parti de droite, par exemple, qui a félicité Petra Costa pour avoir été sélectionné dans la catégorie de meilleure fiction et élucubration. Quant à Jair Bolsonaro lui-même, il dit qu'il n'a pas vu le film, mais qu'il s'agit d'une cochonnerie ou de nourriture pour les vautours.
Merci Martin Bernard. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lequéré
et Sophie Torlotin, à la réalisation Fanny Renard.
On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même cinéma. Nous recevrons Amjad Abouala, un réalisateur soudanais remarqué dès son premier long métrage, Tu mourras à 20 ans. D'ici là, bonne semaine à tous.
Tous les cinémas du monde sur RFI.